l'appel, vous êtes uniquement en écoute, mais vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de l'appel. Cela peut être fait en appuyant sur l'étoile 1 sur votre clavier pour enregistrer votre question. Et si vous avez besoin d'aide, veuillez appuyer sur étoile 0 et vous serez connecté à un opérateur. Je confie maintenant la parole à Monsieur Jean Brieux, le Tinier, directeur financier du groupe, pour commencer la conférence d'aujourd'hui. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à notre conférence téléphonique sur le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022. Comme d'habitude, notre communiqué de presse, ainsi que la présentation que nous allons commenter lors de ce call, sont d'ores et déjà disponibles sur notre site Internet. Je suis accompagné de l'équipe des relations investisseurs avec Stéphanie et Marina. Je vais tout d'abord vous donner un aperçu des performances du groupe au cours des trois premiers mois de l'année, puis nous serons heureux de répondre à vos questions. Permettez-moi de commencer cette présentation en slide 2 par les principales réalisations de ce trimestre. Tout d'abord, Fnac Darty a enregistré une très bonne résistance de ses ventes au premier trimestre. Elles s'affichent en léger recul de seulement moins 2,5% en données comparables, malgré une base de comparaison très élevée, puisque nous avions enregistré une croissance de nos ventes de plus 21,7% au premier trimestre 2021. Par rapport à 2019 pro forma, le groupe affiche toujours une solide croissance de ses ventes à plus 7,8%. D'après les derniers chiffres publiés par la Banque de France il y a deux jours, le groupe a continué de surperformer le marché en France, au global, au premier trimestre 2022. Deuxièmement, cette performance résulte d'une solide croissance des ventes en magasin, dans un contexte où tous les magasins étaient ouverts ce trimestre, et d'un niveau de vente en ligne qui reste soutenu à 23% des ventes totales du groupe. Je vous rappelle que le niveau des ventes en ligne au premier trimestre est toujours moins élevé que le taux annuel, compte tenu de la saisonnalité de notre activité. Par ailleurs, le click and collect, qui est clé pour notre modèle omnicanal, représente toujours près d'une vente en ligne sur deux. Ce taux s'élève à exactement 47% des ventes en ligne au premier trimestre 2022, en progression de 6 points sur un an. Troisièmement, le groupe a réussi à préserver son taux de marge brute ce trimestre, qui s'affiche en croissance de plus 40 points de base par rapport au premier trimestre 2021, porté notamment par la contribution positive des services, avec la poursuite du déploiement de Dartymax et la reprise de l'activité de billetterie. Il n'y a pas d'impact significatif de la franchise sur le taux de marge brute ce trimestre, car leur niveau d'activité revient à un niveau plus normal. Enfin, le groupe a signé ce trimestre deux partenariats stratégiques structurants autour du digital et de la data, avec Google d'une part, et de la réparation avec Apple d'autre part. Ce sont deux piliers majeurs de notre plan stratégique Everyday, sur lesquels je reviendrai dans quelques instants. Avant d'entrer dans le détail de nos performances, je souhaite vous rappeler que le groupe a versé fin mars une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat aux collaborateurs les plus directement touchés par le contexte inflationniste auquel nous faisons actuellement face. Cela a concerné plus de 19 000 collaborateurs, soit près de 80% des collaborateurs du groupe. À titre d'illustration, en France, cette prime s'élève à 400 euros pour un salarié percevant un salaire fixe annuel brut inférieur à 35 000 euros. Au global, l'impact de cette prime sur le résultat opérationnel courant du groupe de cette année est supérieur à 6 millions d'euros. Par ailleurs, les agences Standard & Poor's et Scope Ratings ont récemment relevé d'un cran la notation de crédit long terme de Fnac Darty pour la porter à BB+ et BBB, respectivement, avec une perspective stable. Nous sommes très satisfaits de ces relèvements qui soulignent la solide gestion financière de Fnac Darty, et ce, dans un contexte de crise. Rentrons maintenant dans le détail des performances commerciales du groupe par région au premier trimestre en slide 3. La zone France-Suisse affiche une bonne résistance de ses ventes à moins 2,8% en données comparables dans un contexte de base de comparaison élevée. Cette performance résulte de la bonne dynamique des ventes en magasin alors que les ventes en ligne se normalisent dans un contexte où l'ensemble de notre parc de magasins était ouvert ce trimestre. Dans cette zone, le groupe a poursuivi l'ouverture de nouveaux magasins au premier trimestre avec 9 nouveaux points de vente, dont 7 en franchise. De plus, en Suisse, le déploiement du partenariat avec Manor se poursuit conformément au plan, avec l'ouverture additionnelle de 7 shopping shops Fnac au sein des magasins Manor, implantés en Suisse alémanique. À fin mars, le groupe compte donc 20 shopping shops Fnac au sein de Manor et vise toujours un total de 27 shopping shops d'ici l'été. Dans les autres zones, les ventes sont en hausse en péninsule ibérique à plus 7,4%, témoignant de la reprise progressive dans cette région qui a été plus durement touchée que par la crise sanitaire. Enfin, la zone Belgique-Luxembourg s'affiche en retrait à moins 8,6% en données comparables, pénalisée par une base de comparaison élevée et un environnement de consommation atone dans un contexte d'inflation particulièrement soutenu dans ces deux pays. Passons maintenant aux performances par catégorie. Les produits d'électroménager sont en baisse ce trimestre, liés principalement à un repli des volumes sur le marché, comme souligné par les derniers chiffres de la Banque de France, couplé à un fort effet de base de comparaison, alors que le prix de vente moyen du gros électroménager progresse. Les produits techniques ont enregistré une bonne dynamique de la téléphonie, du son et de la photo, plus que compensée par le recul des catégories qui avaient bénéficié du fort besoin d'équipement pour le télétravail et l'apprentissage à la maison, en lien avec la crise sanitaire. Les produits éditoriaux sont en forte croissance, portés par la reprise du trafic en magasin, avec notamment une bonne dynamique des ventes de livres, tirée par le pass culture en France, qui a été étendu aux collégiens, et par l'appétit des lecteurs pour les BD et les mangas. La vidéo et l'audio, et en particulier les vinyles, affichent également de bonnes performances, alors que le gaming s'affiche en retrait, lié à des pénuries de stock des dernières générations de consoles. Enfin, les services continuent de progresser dans toutes les régions, avec notamment la poursuite du développement de Dartimax, la bonne dynamique du crédit et la reprise encourageante de la billetterie grâce à une programmation riche et à l'allègement des contraintes sanitaires au cours du trimestre. Revenons en slide 4 sur les deux partenariats clés que nous avons signés au cours du premier trimestre. Tout d'abord, le groupe a signé avec Google un partenariat sur le cloud et la data pour améliorer la pertinence de nos outils de recherche et apporter toujours plus de services à nos clients. Fnac Darty est ainsi le premier distributeur en France à déployer la solution Google Cloud Retail Search sur ses sites fnac.com et darty.com afin d'améliorer la performance de leur moteur de recherche. Nous allons ainsi établir de nouveaux standards de performance pour les parcours d'achat de nos clients, en ligne et sur le mobile, permettant au groupe d'atteindre son objectif de 30% de ventes en ligne d'ici 2025. Ce partenariat permettra également à Fnac Darty d'améliorer le pilotage de ses activités, comme la gestion des promotions ou une meilleure priorisation des interventions des services après-vente, grâce à l'intégration d'outils d'analyse et de traitement de données, de machine learning et d'intelligence artificielle. En parallèle, nous avons signé un partenariat inédit avec Apple, qui renforce l'engagement pris par le groupe depuis plusieurs années sur la réparation et l'allongement de la durée de vie des produits. Au travers de ce partenariat, l'ensemble de nos 142 points de vente WiFix intégreront le réseau de centres de services agréés Apple en France d'ici cet été. En outre, l'ensemble du réseau WiFix aura accès aux pièces détachées Apple avec la formation de ses 500 collaborateurs au savoir-faire et à l'utilisation des outils Apple. Enfin, Apple Care Service viendra enrichir les offres d'assurance mobile déjà proposées par le groupe. Ce partenariat renforce ainsi la relation de long terme entre Apple et Fnac Darty et confirme l'engagement pris par le groupe en faveur de la réparation et de la durabilité des produits. Avec déjà 2,1 millions de réparations en 2021, le groupe a pour ambition d'atteindre 2,5 millions de produits réparés par an en 2025. Pour conclure, en slide 5, Fnac Darty a continué de surperformer ses marchés et a réussi à préserver son taux de marge de brut ce trimestre, et ce, dans un contexte d'inflation croissante et de recul de l'indice de confiance des ménages. Le groupe reste attentif à l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui impacte la visibilité de nos marchés pour les prochains mois. Je vous rappelle cependant que le groupe ne dispose pas d'implantation dans la zone du conflit, ni ne s'approvisionne directement auprès de fournisseurs établis dans cette zone. Pour le reste de l'année, tout d'abord, Fnac Darty reste confiant dans sa capacité à surperformer le marché, ainsi qu'il l'a démontré au premier trimestre, grâce à une offre large de produits et de services pour répondre aux besoins des clients, à un positionnement fort sur les catégories plus premium et à une gestion solide des approvisionnements. D'autre part, le groupe concentre ses efforts sur l'optimisation de son niveau de marge brute, qui reste la priorité. Aussi, le groupe s'appuiera sur sa capacité à répercuter les hausses de prix, en particulier sur les produits les plus premium, qui bénéficient de renouvellements de gamme réguliers. Enfin, le groupe poursuivra sa solide gestion des coûts avec la mise en place de plans de performance efficaces, lui permettant de compenser au mieux l'impact de l'inflation, qui devrait se situer à un niveau supérieur aux années précédentes. En parallèle, les équipes poursuivront leurs efforts dans la bonne exécution de notre plan stratégique Everyday et nous confirmons nos objectifs d'atteindre un free cash flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023 et un cash flow libre opérationnel d'au moins 240 millions d'euros à partir de 2025. Quelques mots en slide de 6 pour vous rappeler que l'Assemblée générale du groupe se tiendra le 18 mai prochain à Paris. Nous avons précisé dans notre communiqué de presse la montée à plus de 13% de notre capital de Vesa Equity Investment ce mois-ci, devenant ainsi notre second actionnaire. Je vous rappelle que Vesa n'envisage pas de solliciter la nomination d'un ou plusieurs membres à notre conseil d'administration. Par ailleurs, au cours de cette Assemblée générale, seront proposés le renouvellement de 3 administrateurs indépendants et la nomination d'une nouvelle administratrice indépendante, Stéphanie Meyer, qui est l'ancienne vice-présidente projet groupe de Sécoonomie. Cette nomination permettrait ainsi de renforcer l'expertise de notre conseil dans le domaine de la distribution et du digital, tout en maintenant un niveau d'indépendance et de mixité très élevé. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions.
Si vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire sur la conférence d'aujourd'hui, appuyez sur étoile 1 du clavier de votre téléphone. Si vous souhaitez annuler votre question, appuyez sur étoile 2. Je vais vous avertir quand poser votre question. Nous avons déjà des questions dans la file d'attente et notre première question vient de la part de Monsieur Clément Genelot de la compagnie Briand Garnier & Co. Clément, Monsieur Genelot, allez-y, c'est à vous.
Merci, oui, bonsoir Jean-Brieuc. J'aurais 3 questions. La première, c'est sur le contexte inflationniste. Dans ce contexte, est-ce que vous observez une baisse en gamme de vos clients qui pourraient aller un peu plus, on va dire, vers les marques propres, vers des gammes plutôt d'entrée, voilà, avec des avec des prix entrée de gamme. Ma deuxième question, elle est plutôt sur l'outlook de marge. Si je comprends bien, on peut espérer encore voir la marge brute s'améliorer un peu au même rythme que ce qu'on a déjà observé au T1, si on se dit qu'effectivement la billetterie, les services vont se reprendre et aussi que sur la fin de l'année, on aura une reprise de nature et des couvertes. Néanmoins, si je comprends bien aussi le wording, le cost marketing que vous pourriez mettre en place en 2022 risque de ne pas compenser entièrement l'inflation des OPEX, donc il faut attendre que la marge EBIT, au moins sur l'année 22, se reprenne moins bien que la marge brute. Est-ce que c'est juste? Et mon troisième point, c'est sur le partenariat que la billetterie a annoncé avec ETS Eventim pour les JO 2024. Dans sa press release, ETS mentionne une contribution de l'ordre de double digit million euros. Quid de France Billet, est-ce que c'est cette contribution qui est aussi valable pour France Billet ou c'est une autre contribution? Ce n'est pas très très clair. Merci.
Ok, merci Clément. Alors, sur ta première question, sur le contexte inflationniste et la réaction des clients en termes de qualité de produit, aujourd'hui, on ne voit pas de descente en gamme de nos clients. On ne le voit pas du tout. Donc, c'est peut-être un peu tôt, mais je ne pense pas. Je pense que nous sommes sur des produits qui sont plus des produits d'investissement, notamment quand on parle de gros électroménagers, qui sont les catégories qui subissent, on va dire, les hausses de prix en premier. Là, on est plutôt sur des produits d'investissement sur lesquels, à notre sens, le client cherche plutôt de la durabilité et est prêt à payer un peu plus cher. Donc, on ne le voit pas aujourd'hui dans nos ventes, en tout cas. La seconde question sur l'outlook, on ne donne pas, alors, premier point sur la marge brute, c'est notre priorité de maintenir la marge brute. On n'a pas de visibilité sur nos marchés. On l'a mentionné, on a dit qu'on ferait mieux que nos marchés. On n'a pas de visibilité sur les marchés. En revanche, on sait que sur la marge brute, on a des leviers et que ça reste notre priorité. Les leviers, ça va être les services, ça va être la billetterie, ça va être l'activité de nature ou peut-être d'autres entités avec des marges brutes plus élevées. Et ça passe aussi par notre capacité, évidemment, à transférer l'intégralité des hausses de prix à nos clients. Et ça, on pense qu'on a une vraie capacité à le faire et ce sera un atout très important dans cette année 2022. Sur les coûts, alors oui, historiquement, comme historiquement, vous le saviez, on a toujours eu cette capacité à maintenir des coûts stables en euros à périmètre constant. Donc chaque année, aller chercher entre 1,5 et 2 points d'inflation pour finalement ramener nos coûts flat. Cette année, on voit l'inflation qui monte un peu, on reste ambitieux sur nos baisses de coûts, hein, sans la chiffrer à ce stade. Il faut bien que vous ayez en tête, hein, c'est que les coûts, ça représente à peu près 25% du chiffre d'affaires du groupe. Donc, si on a un point d'inflation, ça se compense avec 25 bips de marge. Il faut bien avoir cette équation en tête, hein. Donc, c'est des éléments qui ne sont pas complètement non plus hors de portée, même si, je le répète là, nous ne donnons pas de guidance, hein, sur la marge de ROC de l'année. C'est juste des éléments de maths que je vous mets entre les mains pour que vous puissiez bien apprécier la magnitude des choses dont on parle. Donc, on ne donne pas de notion de guidance sur la marge brute en euros, ni sur les bits. En revanche, on sait qu'on a des moyens, des plans, des moyens d'action pour jouer, en fait, cette année, à tout ce qu'on peut faire. Et on a beaucoup d'atouts entre nos mains, entre nos capacités à passer les prix aux consommateurs et, on va dire, à maîtriser l'inflation qui nous laisse plutôt confiance cette année. Sur ta troisième question qui était sur le partenariat CTS, Stéphanie.
Oui, donc sur ce partenariat, donc oui, vous avez peut-être vu la news ce soir. Donc c'est un partenariat dont on est plutôt content, puisque c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir de remporter la billetterie des JO de Paris 2024. Comme il est précisé dans le communiqué, ça va nous générer. On espère une croissance en effet à moyen terme, c'est ce qu'on dit. Évidemment, pour l'instant, les billets ne sont pas en vente, hein, mais c'est quelque chose qui est plutôt positif et qui est de bon augure pour la suite. Donc, c'est plutôt un accord qui est positif. On l'a trompé.
Et on peut penser que les marges qui vont être générées via ce business un peu supplémentaire pourraient avoir les mêmes marges que le business classique de la billetterie, ou là, comme c'est un partenariat un peu gros, on peut attendre des marges qui soient un petit peu plus faibles?
Alors, là, on ne va pas répondre parce qu'en fait, ça dépend des commissions que l'on prend et des négociations qu'on peut avoir avec le CIO. Donc, évidemment, tous ces éléments-là sont extrêmement confidentiels et on ne va pas donner d'informations particulières, d'autant plus que les impacts sera plutôt en 2024.
D'accord, ok. Merci.
Nous avons d'autres questions. Donc, la question suivante vient de la part de Marilyn Faure, de la Société Générale. Madame Marilyn, allez-y, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Je voulais d'abord revenir sur les baisses de ventes de gros électroménagers sur le premier trimestre. Est-ce que c'est lié à des effets de base ou est-ce que c'est lié à des effets de saturation du marché après peut-être 18 mois de renouvellement fort? Comment vous voyez les choses? Ça, c'était la première chose, sachant que de mémoire, c'est des ventes c'est des produits qui sont assez générateurs de marge brute pour Darty. C'est ma première question. Ma deuxième question a trait à la billetterie. Est-ce que vous voyez déjà sur le premier trimestre un net rebond de la billetterie, sachant qu'il y a quand même eu un petit peu de restrictions avec le variant Omicron, ou est-ce que c'est plutôt des choses que vous voyez sur le deuxième semestre? J'avais également une question sur la commercialisation d'Artimax. J'ai vu que vous faisiez une grande campagne de publicité. En même temps, les magasins ont été ouverts sur le premier trimestre. Est-ce que vous voyez une accélération des ventes de d'Artimax et comment ça se commercialise? Enfin, quelle est la réception de vos clients? Et ma dernière question, c'est sur Nature et Découverte. La presse s'est fait écho d'un possible nouveau plan stratégique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Voilà, merci beaucoup.
Merci Marilyn. Alors sur le premier point, on voit effectivement un marché un marché du gros électroménager sur le trimestre qui est plutôt en baisse. On a quand même c'est très très lié à un effet de base. Quand on regarde sur 2 ans, le marché il reste avec une très belle progression. Donc on regarde, c'est toujours un petit peu compliqué, enfin, même pour nous, c'est toujours compliqué d'apprécier la performance sur 1 an, sur 2 ans. Si on compare à la vraie année comparable qui est 2019, le marché reste avec une très belle progression. Donc on va plutôt qualifier ça d'effet de base. Sur la billetterie a été impactée notamment sur janvier parce qu'on avait encore les suites du variant Omicron. Sur février-mars, on voit plutôt une belle dynamique de la billetterie. Ça se présente plutôt bien sur cette activité. D'Artimax, on continue à recruter des clients. Évidemment, je ne donnerai pas le chiffre d'abonnés ce soir, hein. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à date, on est exactement dans le plan qu'on visait en interne. Voilà. nature, tu veux?
Oui. Alors, sur nature et découverte, oui, donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en effet, on a acheté nature quand même milieu de l'année 2019, donc consolidé depuis août 2019. Les magasins nature et découverte ont été quand même particulièrement chahutés par la crise sanitaire. Je vous rappelle que, et en 2020 et même l'année dernière, les magasins nature ont été quand même fortement fermés. Donc, espérons-le, rentrer dans une année un peu plus normale en termes de, j'ai envie de dire, d'ouverture de magasins. Donc, pour l'instant, il est encore un peu tôt pour en dire plus et on pourra revenir dessus à l'occasion, mais ce sera plutôt avec Frédéric Lavarini, qui est la directrice générale de nature et découverte. En tout cas, on poursuit toujours notre volonté de pouvoir ouvrir des magasins nature et découverte, notamment dans les nouvelles zones. On a fait le Portugal, on ouvre aussi en Outre-mer. Donc voilà, on poursuit quand même le déploiement de nature et découverte.
Merci.
La question suivante nous vient de M. Geoffroy Michalet de la compagnie Odo BHF. Monsieur Geoffroy. Allez-y, c'est à vous.
Oui, bonjour. Deux questions pour moi. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'état actuel des ruptures de stock sur les principales catégories et les tendances les plus récentes qu'on peut observer? Et deuxième point, c'est une réflexion sur les stocks et l'inflation. Voilà, comment vous envisagez le contexte inflationniste pour l'année à venir? Et est-ce à dire que si vous le considérez comme toujours fort au S2, vous pourriez prendre des mesures au S1 qui viendraient ponctuellement peut-être dégrader le BFR pour ensuite améliorer la génération de cash au S2? Merci.
Ok. Alors, ouais. Sur les ruptures de stock et les tendances, alors aujourd'hui, c'est presque la même réponse pour tes deux questions, Geoffroy. On n'a pas de rupture de stock, clairement pas. Il faut vous rappeler que les ruptures de stock, les difficultés d'approvisionnement, comme on le dit régulièrement, ça date de décembre 2019, hein, ça date d'avant le Covid, avec les premières difficultés en Chine. Et globalement, le positionnement du groupe, nos relations avec nos fournisseurs, une certaine agilité, une capacité à prendre des risques, il y a plusieurs raisons, font qu'on n'a jamais eu de difficultés d'approvisionnement ni de rupture significative en magasin. Aujourd'hui, l'état des stocks est plutôt très satisfaisant, voire on est plutôt en train de charger du stock en ce moment, de les augmenter. Ce n'est pas tellement lié au contexte inflationniste, parce que ça, c'est des paris sur l'avenir qui ne sont pas forcément toujours payants. En revanche, c'est plutôt lié à ce qu'on voit en Chine depuis quelques semaines, avec l'arrêt de quelques usines suite au contexte de Covid. Donc, on a Shenzhen, Shanghai, donc on a quelques zones où on sait qu'on voit des usines qui s'arrêtent. Et donc, pour prévenir d'éventuelles ruptures d'ici un mois ou deux, on est plutôt, nous, en train d'acheter du stock en ce moment. Donc, effectivement, ce n'est pas impossible que l'on voit des niveaux de stock en mois de juin qui soient supérieurs à ce qu'on aura pu observer l'année dernière ou il y a deux ans, sans que ça remette en cause nos objectifs de free cash flow de l'année. Hein. Ça, tu l'auras bien compris.
Très clair, merci.
Nous n'avons plus de questions dans la file d'attente. Donc, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 de votre clavier. Très bien. Nous avons une question à nouveau venant de Madame Fabienne Caron de la compagnie Schaeffler Chevreau. Madame Caron, allez-y, c'est à vous.
Bonsoir, c'est Kepler Chevreux et pas Kepler Chevreux, mais c'est pas grave. Deux petites questions de ma part. Est-ce que vous pourriez quantifier l'inflation moyenne que vous voyez sur les produits blancs, s'il vous plaît? Et la deuxième question, comment se fait-il qu'en Belgique, le contexte consommation soit si difficile? Parce que je garde quand même en mémoire que, OK, il y a de l'inflation, mais il y a quand même aussi une inflation des salaires automatiques en Belgique. Donc j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi la consommation est si difficile, si vous pourriez m'aider. Merci.
D'accord, pas de problème. Sur l'inflation, sur le blanc notamment, on ne va pas donner le chiffre. On a signé nos contrats, la signature des contrats, les principaux contrats ont été faits en février, comme l'exige la loi. Il y a des hausses de prix qui arrivent, qui vont passer. Évidemment, ça fait aussi partie d'une partie inflation, une partie négociation. Donc, on va pas, je ne vais pas rentrer dans nos secrets industriels, ni des éléments commerciaux et donner le chiffre à ce stade. On en parlera peut-être plus tard dans l'année ou après.
Une range du style mid-single digit ou mid-double digit, ce genre de commentaires?
Même pas.
Assez large? Ok.
Même pas, Fabienne, même pas.
Même pas.
Même pas. Bien essayé, mais même pas.
Et la sur Belgique.
Sur la question de la Belgique, un peu comme la zone France-Suisse, donc ils ont une base de comparaison qui était particulièrement élevée au premier trimestre cette année. Et il faut savoir qu'en zone Belgique-Luxembourg, ils ont un poids notamment du GEM qui est plus important par rapport aux autres zones. Or, c'est le GEM qui a été un peu plus touché sur les volumes, c'est ce qu'on a dit notamment, c'est ce qu'on a vu dans le marché. Donc forcément, ça joue un peu dans les performances que la zone Belgique-Luxembourg a sorties pour le T1. Rien d'inquiétant pour autant, puisqu'ils sont de toute façon en croissance, on l'a vu, par rapport à 2019.
Oui, une très belle croissance par rapport à 2019.
Donc il y a des choses, des éléments qui sont crantés, voilà. C'est pas... Il y a un effet de base de comparaison très particulièrement élevé et un poids du GEM qui est plus élevé dans cette zone.
D'accord, merci.
Très bien, question suivante de nouveau depuis Madame Marilyn Faure de la Société Générale. Donc Marilyn, allez-y, c'est à vous.
Oui, en fait, j'avais une question sur la Belgique qui a été posée. Je vais en rajouter une sur les produits de mobilité. J'ai notamment vu que Ami s'était très très bien vendu. Quel est ce que vous bénéficiez toujours de cette diversification produit et est-ce que vous avez des projets en la matière?
Oui, on continue. La mobilité, c'est une catégorie de diversification qu'on a lancée il y a quelques années qui tourne très très bien. Je pense qu'on a prouvé qu'on pouvait être assez rupturiste dans l'approche. On a commencé avec les trottinettes et puis on a mis des vélos. On a essayé la voiture qui a bien marché, le scooter électrique que vous verrez assez vite un peu partout. Donc on continue à développer à la fois la vente de produits maîtres et puis les accessoires qui sont un complément nécessaire à la fois à la vente et puis qui nous aident bien en marche également.
Et on fait un travail aussi, Marie-Mine, de mise en avant de ces produits, puisqu'on a ouvert des corners XXL de mobilité urbaine dans nos magasins. Donc voilà, on poursuit notre développement sur cette catégorie.
Avec une marge brute qui s'améliore?
Une marge brute qui est très, très satisfaisante sur ces catégories-là.
D'autant plus qu'on attache des accessoires et services, puisque tu sais qu'on a tout l'écosystème service aussi, avec notre partenariat avec Cycloflix. Voilà, donc on a tout l'écosystème mobilité urbaine qu'on développe.
Très bien, merci beaucoup.
La question suivante nous vient de M. Clément Genelot, de la compagnie Brian et... Carnier et Co. Donc, allez-y, monsieur, c'est à vous.
Merci. Deux points. Le premier point, c'est sur le partenariat que vous avez fait avec Uber Eats, par lequel, si j'ai bien compris, en fait, c'est le client qui achète du coup sur la plateforme Uber Eats sur un choix qui est plus restreint. Et ensuite, le livreur Uber Eats vient en magasin Fnac le prendre et le livre chez le client. Est-ce que c'est un partenariat... une relation commerciale qui déjà à l'heure actuelle porte ses fruits. Est-ce que, de votre point de vue, ça mériterait d'être étendu à d'autres plateformes et voire aussi à d'autres pays? Et mon deuxième point, c'est plutôt sur Veza. Est-ce que c'est juste pour l'instant un investisseur purement financier qui n'a même pas pris à contact avec vous, ou bien est-ce que c'est un investisseur qui noue, on va dire, des relations un peu plus étroites avec vous et qui veut discuter assez régulièrement?
Alors, sur la première question, Clément, sur le partenariat Uber Eats, pour l'instant, c'est des tests, en fait, qu'on fait avec ce type de plateforme. C'est dans quelques grandes villes. En effet, c'est sur une sélection restreinte de produits. Le but étant notamment de proposer une offre, en fait, qui est complémentaire pour que les clients puissent s'approvisionner sur des produits qui sont recherchés, notamment en dehors des heures d'ouverture des magasins. Et donc, c'est vraiment comme ça que ça a été fait. Pour l'instant, c'est un test. Et donc, évidemment, comme tout test, il y a un peu de temps pour voir si ça marche entre les deux partenaires. Et puis, évidemment, on ira un peu plus loin si c'est concluant.
Concernant Veza et Daniel Kretinsky, on les a rencontrés, évidemment. On rencontre son équipe dans le même cadre qu'on pourrait rencontrer tout investisseur. C'est complètement normal. Je pense que ce qu'il apprécie aujourd'hui chez Fnac Darty, c'est le projet de l'entreprise et son plan stratégique, c'est l'équipe. Et puis, il y a un côté discount sur le titre qui ne lui a pas échappé.
Je me doute. Ah, merci en tout cas de vos réponses.
Très bien, donc nous n'avons plus de questions. Je vais donc redonner la parole à votre hôte.
Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention et votre écoute et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.
Merci d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher. Les organisateurs de la conférence, s'il vous plaît, restez connectés pour des instructions supplémentaires. Merci.